Ce matin, on va regarder la suite de Luc 9. Donc, on s'était arrêté au verset 26 et on va continuer à partir du verset 27. Luc 9, 27, donc. Tiens, on va faire un truc qu'on ne fait jamais. Si vous voulez vous lever, on va lire ensemble la parole de Dieu debout. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu. 8 jours environ s'écoulèrent après qu'il eut dit ces paroles, puis Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais ils se tinrent éveillés et virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les envelopper, et les disciples furent saisis de crainte, tandis qu'ils entraient dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent à personne, en ces jours-là, rien de ce qu'ils avaient vu. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint à la rencontre de Jésus, et voici que du milieu de la foule, un homme s'écria « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris, et l'esprit le fait entrer en convulsion, le fait écumer, et le quitte à grande peine, après l'avoir tout meurtri. « J'ai prié tes disciples de le chasser, et ils ne l'ont pas pu. » Jésus répondit « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je ? Amène ici ton fils. » Comme il approchait, le démon le jeta par terre et le fit entrer en convulsion. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, « Pour vous, prêtez bien l'oreille à ces paroles, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette déclaration, elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en saisissent pas le sens, et ils craignaient de le questionner à ce sujet. Or, une discussion survint entre eux pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Jésus, qui connaissait la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean prit la parole et dit « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne te suit pas avec nous. » Jésus lui dit « Ne l'en empêchez pas, en effet, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » Lorsqu'approchaient les jours où il devait être enlevé du monde, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem et envoya devant lui des messagers. Ils se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains afin de faire des préparatifs pour lui. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. À cette vue, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et de les consumer ?» Il se tourna vers eux et les reprit sévèrement en disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » Et il répondit « Permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Amen. Prions. Seigneur, merci pour ton exemple, merci pour ta vie sur terre. Ouvre nos cœurs, que nous soyons comme des petits-enfants prêts à entendre ce que tu as à nous dire, à l'accepter, Seigneur. Parle à chacun de nous et quelque chose pour chacun de nous, Seigneur. Et comme priait James, que nous partions différents tout à l'heure de quand nous sommes arrivés ce matin, Seigneur. Que ta parole agisse. En ton nom, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc la semaine dernière, j'avais arrêté au verset 26. Et c'était un petit peu en espérant qu'il y ait quelqu'un d'autre pour prendre la suite avec le verset 27. Parce que c'est un passage qui est un petit peu difficile. C'est un verset qui nous interpelle, qui parfois nous pose problème quand on tombe dessus. On le lit et on se dit il y a des choses qui collent pas, peut-être qu'il s'est trompé, peut-être alors on essaie de comprendre l'analogie là du verset 27 quand il dit que quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu. On se dit mais je crois que la réaction naturelle pour nous tous, c'est de nous dire, mais on est là, ça fait 2000 et quelques années, le royaume de Dieu, on le voit pas trop encore, hein. Et on se dit, bon, il y a un problème sur le texte, peut-être que les disciples, quand ils ont écrit les évangiles plus tard, ils ont eu un petit problème dans la transcription, peut-être qu'ils parlaient, ils se sont trompés, peut-être qu'ils écrivaient encore avec l'espoir de voir le royaume de Dieu arriver. Et donc on se dit qu'en fait, enfin, ce texte est pas bon, quoi. Mais c'est un petit peu une manière de, enfin, notre manière souvent fière et présomptueuse d'aborder le texte dans la Bible, hein, en nous disant que nous on a raison et qu'on a tout compris et qu'on on va expliquer ce qui se passe dans la Bible. C'est difficile pour nous, en tant qu'hommes, de garder un esprit ouvert pour se dire qu'on comprend pas tout, qu'on n'a pas une bonne vision forcément des choses, et que ce texte-là, ben peut-être que avec un peu plus d'humilité, peut-être qu'on comprendrait ou peut-être qu'on verrait les choses différemment. Alors une première tentative pour expliquer un petit peu cette chose ici ensemble, c'est de se dire qu'on a, je pense que la première chose, c'est qu'on a une mauvaise compréhension de ce qu'est le royaume de Dieu. On se dit que c'est un royaume terrestre. Finalement, on est comme les disciples. On s'attend à ce qu'il ait son royaume politique établi et on se dit que tant que ça c'est pas arrivé, le royaume de Dieu. Mais Jésus, je pense, dans son esprit, le royaume de Dieu, c'est quelque chose de spirituel. Avant tout. On est rapide pour se dire que les disciples se trompaient souvent et ne comprenaient pas ce que disait Jésus. Et en fait, moi, quand je lis ce verset 27, quand je vois le royaume de Dieu, je pense que je fais la même erreur que les disciples, nous encore, même avec l'Esprit Saint, même avec la Bible, même avec les années depuis, avec tout ce qu'on a pu avoir en plus de ce qu'avaient les disciples. Et donc le royaume de Dieu, en fait, on peut dire qu'il arrive pour les disciples. Alors, encore une fois, je reste humble, je sais pas exactement tout ce que veut dire le texte, mais je crois que Jésus dit quelques-uns des personnes qui sont là en ma présence vont voir le royaume de Dieu. Alors certains pensent qu'éventuellement ce royaume de Dieu, cette chose, c'est peut-être la transfiguration. Ce qu'on voit tout de suite après, à partir du verset 28, ça pourrait peut-être être aussi la mort, la résurrection de Jésus, puis l'arrivée de l'Esprit Saint et le début de l'Église à la Pentecôte, ce moment où Dieu, je pense, sauve les. C'est à ce moment-là que les disciples reçoivent le Saint-Esprit et et voyez le royaume de Dieu. Alors, on ne sait pas, mais en tout cas, il y a une promesse de la part de Jésus. Et si on se remet dans les circonstances de ce qu'on regardait la semaine dernière, on se souvient que Jésus terminait le texte qu'on regardait par des paroles difficiles à propos de ce que ça représentait de suivre Jésus. Il parlait du fait qu'il fallait prendre sa croix, qu'il fallait mourir à soi, qu'il fallait faire des choses qui a priori n'étaient pas agréables à entendre. Et le verset 27 et la suite du texte avec la transfiguration, je pense, en partie sont une manière pour Jésus de dire « Oui, il y a la souffrance, oui, il y a une difficulté, mais il y a une gloire, il y a une promesse, il y a quelque chose qui vient après, il y a une récompense. La croix n'est pas une fin en soi, il y a une gloire, le fait de pouvoir avoir une relation avec Dieu le Père, d'être restauré dans la relation qui était voulue pour l'homme avec Dieu, qui est au-delà de ça. » Regardons ensemble la transfiguration. Donc il monte sur une montagne. Jésus, on sait qu'il allait souvent à l'écart pour prier, pour passer du temps avec son Père, dans la prière. Et il y a ce moment incroyable pour ceux qui ont déjà lu la Bible, qui sont allés dans des églises depuis suffisamment longtemps, on a déjà entendu cette histoire de Jésus qui devient blanc, éclatant, qui se met à luire de l'intérieur. C'est une scène, encore une fois, on a envie de le voir au cinéma, on a envie de savoir ce à quoi ça ressemblait. Le mot dans l'expression, dans le texte originel, veut dire qu'il change, c'est de l'intérieur, c'est pas comme s'il y avait une lumière sur lui, c'est vraiment, il se met à luire de l'intérieur, il y a une lumière, il y a quelque chose dans son être qui change. Il me semble que c'est dans le récit, dans Marc, qui dit qu'il resplendit comme le soleil. Ça devait être incroyable. On va essayer de passer vite dessus, pas trop s'attarder. C'est un moment dans la Bible sur laquelle je pense qu'on pourrait passer énormément de temps sur les choses à dire. On va juste regarder quelques idées à propos de ce moment. Je crois qu'un premier élément qui est intéressant, c'est de voir que ça se passe quand Jésus avait passé un moment dans la prière. On a l'impression par le texte que Jésus est monté sur la montagne, qu'il a passé un moment dans la prière. On voit que les disciples avaient même eu le temps de s'endormir, encore une fois. Et dans la prière, dans ce moment de communion avec son Père, il y a cet événement qui arrive. Et pour nous, on se dit, mais c'est le miracle, c'est cette gloire, cette resplendissance, cette chose qui sort de lui. On se dit, c'est incroyable. C'est quelque chose de surnaturel, quelque chose qui nous échappe, quelque chose qu'on n'arrive pas on a du mal même à nous en faire une idée dans l'imagination. Et on se dit, c'est un miracle que ce moment se soit passé. Mais en fait, le vrai miracle dans la vie de Jésus, c'est que Jésus, c'est ça son état normal. Et Jésus, pendant toute sa vie terrestre, a choisi de cacher ce côté-là, de cacher ça, de s'humilier, d'être un homme comme nous. Et c'est ça le miracle, qu'il ait réussi à le contenir, à se retenir pour qu'il puisse accomplir la volonté de Dieu le Père, pour qu'il puisse venir comme nous vivre sur terre, pour qu'il puisse mourir pour nous. S'il était arrivé petit bébé dans le landau et qu'il était déjà en effervescence, en en reluisant en mode diamant là, je peux vous dire qu'il n'y aurait pas que les quelques bergers et les quelques mages qui seraient venus. Toute son histoire n'aurait pas pu avoir lieu. Dans Ésaïe, on nous dit qu'il était sans apparence grandiose pour qu'on le considère. C'était quelqu'un de normal. Et c'est ça le miracle, qu'il est retenu. Et ici, en fait, il est lui-même. Là, il s'est détendu, il s'est mis trop à l'aise et il est redevenu qui il était normalement, en fait. Et il s'entretient avec Moïse et Élie, qui parle de son départ, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Moïse et Élie, deux des plus importants hommes de l'histoire d'Israël. Moïse représente la loi, Élie représente les prophètes. Et Jésus, on sait qu'il a dit qu'il n'était pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais pour accomplir, pour remplir ce qui avait été dit, pour aller au bout de ce que Dieu demandait. Et ici, en plus de ce que les disciples vont en retenir, c'est presque comme si il y a Moïse et Élie qui viennent l'encourager ou le discuter avec lui. Tu vas vraiment aller au bout là, tu vas faire ce à quoi on s'attendait, ce qu'on espère depuis tellement d'années. C'est comme s'il valide le projet et l'obéissance de Jésus. On avait parlé du fait que ce passage dans Luc 9 est un moment où Jésus se concentre sur son objectif final à Jérusalem, sur son obéissance. Et ce moment avec Moïse et Élie, on a l'impression que c'est comme si Dieu valide le projet, valide tout ce qui avait été dit par rapport aux disciples qui peut-être pouvaient se dire « mais on va à Jérusalem pour que tu sois livré aux hommes et que tu meurs ». Comme projet, on peut peut-être en discuter en chemin quand même. Là, peut-être deux des hommes parmi les plus influents et les plus importants de l'histoire d'Israël sont là pour valider, en quelque sorte, en plus de ce que va dire Dieu depuis la nuée, enfin cette voix. On a une vision de ce moment-là, presque comme si Jésus et Moïse et Élie, c'est trois égaux presque. On a l'impression qu'ils sont ensemble et à un niveau, ils sont comme trois frères ou trois amis ou qui discutent, qui sont là. On a un peu cette impression dans la manière dont Pierre réagit quand il se réveille, quand il dit bon, on va faire trois tentes, une pour chacun, on vous met sur un pied d'égalité. Mais cette voix qui vient de cette nuée, on pense que cette nuée, c'est la même nuée que la nuée qui représentait la gloire de Dieu le Père dans l'Ancien Testament, la nuée qui guidait les Israélites quand ils étaient dans le désert, cette nuée qui descendait sur le tabernacle, qui descendait sur le temple à certains moments, cette nuée qu'avaient pu voir certains des saints hommes d'Israël. C'est quelque chose d'incroyable. Et du milieu de cette gloire, il y a cette voix qui dit c'est lui, c'est Jésus, c'est mon fils, c'est lui l'important. C'est lui qu'il faut écouter, c'est lui auquel il faut faire attention. C'est quelque chose d'incroyable pour les disciples. La réaction de Pierre est typique. On a l'impression de Pierre qui dit un truc pour dire un truc parce qu'il est un peu... Il y a certaines personnes, quand ils sont inquiets, ils disent rien, ils se taisent, et d'autres qui parlent pour se rassurer. On ne sait pas trop exactement s'il est content, s'il se dit « tiens, on va se faire des tentes et on va rester là, c'est bien, on est bien », ou s'il se dit « est-ce que c'est bon que je sois là? Est-ce que je vais mourir là devant cette gloire, Dans l'Ancien Testament, on voit que la réaction des hommes, c'est toujours de s'inquiéter, d'avoir peur quand ils sont face à Dieu ou les anges ou ces choses-là. Et Et face à la gloire de Dieu, même, on voit que la plupart des hommes, même les plus représentatifs dans l'Ancien Testament, ne pouvaient qu'apercevoir le reflet, en quelque sorte, de la gloire de Dieu. Ils ne pouvaient même pas vraiment regarder en face sans que ça leur soit dommageable. Donc peut-être qu'en fait Pierre, il se dit, on vous met un voile, un peu comme on avait mis à Moïse pour que on voit pas trop, qu'il nous éblouisse pas trop. Alors, on ne sait pas ça exactement ce qu'il pense, mais ça devait être vraiment incroyable pour eux. On se dit que c'est fou qu'ils en parlent pas quand à la fin là du texte il dit qu'ils gardent le silence. On se dit qu'on en aurait parlé. Moi, j'en aurais parlé, je pense. Mais en fait, ça serait un peu comme dire qu'on a vu un ovni, quoi. Personne ne les aurait cru, non? Enfin, ouais, Jésus, il s'est mis à resplendir de l'intérieur. À l'époque, en plus, enfin, c'était nous, on a nos films, on a l'électricité, on a un petit peu peut-être une. On se dit qu'on peut imaginer la chose. À l'époque, ça devait vraiment être incroyable. Et donc, ils n'en parlent pas. Mais ils font quand même référence à ces choses dans leur écrit. Si on se tourne dans Jean 1, Jean 1, verset 14, « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » On se dit que Jean devait sans doute faire référence à ce moment-là et d'autres, mais que ça devait faire partie de ce qui était dans son esprit. Si on se tourne dans 2 Pierre, 2 Pierre 1, verset 16, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Donc on voit que c'est quelque chose qui les marque, hein. Et moi je me dis que si je voyais ça, ça changerait ma vie, quoi. Non? Enfin, vous dites si vous voyez Jésus qui resplendit, ça va vous changer, quoi. Et pourtant, les disciples, leur vie, finalement, leur incompréhension, elle persiste. Leur absence de conviction, ils abandonnent tous Jésus quand il est arrêté. Ils le laissent, ils se disent « c'est foutu ». Et donc, en fait, d'une certaine manière, ce miracle les a pas... Bien sûr, ça les a affectés. On n'est pas. On voit que dans leur texte, plus tard, ils en parlent. Mais qu'est-ce qui les change finalement? C'est ce moment où ils sont nés de nouveau et où l'Esprit Saint vient en eux. C'est à partir du moment de ce moment-là, après la mort et la résurrection de Jésus, à la Pentecôte, que vraiment leur vie change. Tous ces événements reprennent un sens et ils y repensent et ça les conforte. Mais le vrai changement vient de cette chose qui vient plus tard et auquel nous avons droit, auquel nous avons eu droit, que nous pouvons vivre. Nous on a toujours envie de miracles et de wow, de paillettes et d'excitation, mais en fait on est toujours à l'envers, en fait. Comme je disais, je pense que le miracle, c'est que Jésus ait réussi à s'humilier pendant toute sa vie. Et nous, on se dit, bon, bah, s'il y a un événement extérieur qui se passe, là, ça va changer ma vie. S'il m'arrive un truc, et en fait, Dieu, Jésus nous a donné le moyen pour changer, pour être vraiment des hommes différents, mais c'est de l'intérieur, c'est pas quelque chose un événement ou un... C'est pas si vous rencontrez quelqu'un de... Alors, on entend la parole de Dieu grâce à des gens, mais c'est pas... Je pense qu'on donne une importance qui n'est pas toujours la bonne à ces événements, à ces miracles. Et si on regarde un petit peu l'analogie et quelques éléments pour nous, à retirer pour nous de ce moment, je pense qu'on voit, on peut regarder les disciples et voir qu'en fait ils étaient endormis et que c'est qu'une fois qu'ils sont réveillés qu'ils voient la gloire de Dieu. Et par analogie, pour nous, c'est quand nous sommes réveillés spirituellement qu'on peut voir la gloire de Dieu. On a tendance à dormir. On a tendance à pas prier, à pas rechercher Jésus dans sa parole. On s'endort dans le confort, dans la paresse. Dans la facilité, peut-être dans la peur, et je pense que c'est en partie pour ça que Dieu doit parfois nous piquer, nous réveiller avec des difficultés, avec le deuil, avec des besoins, avec des tribulations. Il veut nous réveiller, il veut qu'on voie sa gloire. Et quand on fait le parallèle avec avec certains autres passages, avec la transfiguration, on s'aperçoit que la Bible veut que nous reflétions cette gloire. On peut regarder dans Romains 12:1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cette idée d'être transformé, c'est cette même idée que cette transfiguration, ce changement, cette métamorphose que Dieu veut pour nous. Et si on regarde dans 2 Corinthiens 3, Paul nous dit « Nous tous qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Jésus veut que nous reflétions cette gloire. Je ne pense pas qu'on se mette à luire littéralement. Encore une fois, nous on prend les choses physiquement, matériellement, et Jésus lui veut qu'on voie les choses dans la réalité spirituelle, il veut que nous reflétions sa gloire. Nous en tant que chrétiens et nous en tant qu'Église. Et pour ça, je pense que, encore une fois, on se dit, bon, ben, on va continuer à vivre jusqu'à ce que Jésus fasse quelque chose et puis que ça nous tombe dessus. Je pense, encore une fois, qu'en regardant la vie de Jésus, c'est quand il était en prière, quand il y avait cette discipline disciplines dans la vie spirituelle, on ne peut pas assez souligner leur importance. Et c'est les moyens que Dieu nous a donnés pour que nous soyons changés en son image. Encourageons-nous à être disciplinés dans la prière, dans la communion fraternelle, dans l'étude, dans la lecture de sa parole. On va voir dans la suite, juste après, que les disciples, ils n'arrivent pas à faire des choses parce qu'ils prient pas assez, ils jeûnent pas assez. Il y a ce manque encore de discipline dans la vie des disciples. On peut venir à ces choses et être un petit peu découragé aussi. Se dire, je suis peut-être loin du compte. Mais là aussi, on se dit qu'on s'attend à ce qu'il y ait une transfiguration incroyable, qu'on se mette à multiplier les pains comme ça, là, à la volée. Le passage juste un petit peu après avec l'enfant. Je pense qu'on peut être encouragé dans l'idée que cette gloire, cette chose que Dieu veut dans nos vies, l'idée de refléter, de représenter Jésus comme il veut dans la vie de tous les jours, ça vient aussi avec des choses qui sont simples, avec un amour et des actes qui sont simples. Nous, on a encore une fois envie de choses incroyables, de strass et de paillettes, de puissance et de feu. Et Dieu, il veut qu'on reçoive le petit enfant comme on le recevrait lui, qu'on s'aime les uns les autres, qu'on soit humble, qu'on ne cherche pas à être les premiers. Et donc, je pense qu'on peut aussi s'encourager en se disant que c'est pas si on n'a pas converti toute la ville de Nice d'ici la semaine prochaine, c'est pas qu'on a pas reflété la gloire de Dieu comme il le veut. Si on a aimé les gens autour de nous avec une volonté de les aimer comme Jésus le veut, avec des choses simples, je pense qu'on est déjà très proche de ce que Jésus veut. Verset 37. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint à la rencontre de Jésus. Encore une fois, on a la pression tout de suite de Jésus. À chaque fois qu'on a l'impression qu'il prenne un petit moment pour se reposer, on l'a vu la semaine dernière, on le voit encore cette semaine. C'est toujours difficile, hein, quand on s'est reposé, d'être pressé tout de suite après. Là, le passage avec le papa et les disciples qui arrivent à rien, ça me rappelle presque mes interactions avec, par exemple, mon père quand il a son ordi ou son téléphone qui marche pas. J'ai un peu le... Oh, vas-y, donne-le-moi, c'est bon, voilà quoi, vas-y, c'est réparé, toi, je suis ton fils, tiens, vas-y, donne-le-moi, allez, je le guéris, vas-y quoi. Alors, Jésus, évidemment, il a plus de grâce et d'amour que ça. On le sent fatigué presque par ce manque de foi et de discipline de la part de ses disciples. Ce verset 41, quand il dira, c'est incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? On a quand même l'impression que c'est des paroles difficiles, mais nous, on voit les choses avec notre regard. Encore une fois, je pense que peut-être Jésus, là, était simplement triste pour les hommes qui n'avaient pas compris, qui n'avaient pas saisi, qui étaient encore, qui ne pouvaient pas recevoir parce qu'ils n'avaient pas assez de foi. Dans les autres passages, dans Matthieu et Marc, qui relatent cet événement, on voit que c'est à cause d'un manque conjugué de foi, de prière et de jeûne qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser de ce démon ou de cette chose qui possédait l'enfant. Donc encore une fois, la discipline, ces choses-là dans la vie spirituelle sont importantes. On se dit, mais pourquoi on a encore une fois du mal avec ces éléments spirituels, mais il y a Paul dans ses textes et on voit qu'il y a a priori des ordres d'importance, des rangs dans les mondes les mondes spirituels avec Satan. Il a des démons à différents niveaux. Enfin, il y a des anges à différents niveaux et donc là, il y a l'impression qu'il y a une différence avec ce démon et les disciples n'arrivent à rien. Pour nous, souvent, on n'arrive à rien. Moi, souvent, j'arrive à rien. Et là, il y a des bons exemples, c'est de venir à Jésus, de se rendre compte que je suis pas suffisant, que j'ai besoin de Jésus pour faire les choses dignes d'être faites, que j'ai besoin de Jésus dans les situations difficiles, que je dois revenir à lui de manière récurrente. Les disciples ont l'impression que s'ils disaient c'est bon, Jésus nous a filé sa puissance, maintenant on peut gérer les choses tranquilles. Venons ensemble. Allons aussi chacun de notre côté à Jésus le plus souvent possible. On a besoin de lui. Si on veut refléter sa gloire, si on veut être celui qu'il veut que nous soyons, si on veut que notre intelligence soit renouvelée, on doit venir à lui continuellement. Et les gens sont frappés par la grandeur de Dieu, par ce qu'il faisait, Jésus. Ce moment est bizarre, encore une fois, on a cette impression que tout va bien, que c'est bien, et puis Jésus qui redit des choses dures. Les disciples ne comprennent pas, ils comprendront plus tard. Jésus, encore une fois, n'était pas venu pour établir son royaume sur terre à ce moment-là. Les disciples, juste dans la suite, remontent qu'ils n'ont pas compris. Et ici aussi, je pense qu'on peut tirer une petite conclusion là de ce moment, c'est que parfois il y a des choses que Dieu ne nous révèle pas, des choses qu'on ne comprend pas. Soyons en paix avec ces choses-là. Nous, on est rapide à être frustré, à pas lui faire confiance, à essayer de comprendre, de justifier, d'expliquer. Faisons-lui confiance. Jésus nous aime, il sait ce qu'il fait, et dans les situations de la vie où on ne comprend pas, même quand c'est difficile, faisons-lui confiance. Verset 46, une discussion survint entre eux pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Moi, je me dis que peut-être que c'est les trois qui avaient été sur la montagne. En fait, ils discutaient peut-être un petit peu finalement. Ils disaient, nous, on a vu Moïse et Élie quand même. On va être les lieutenants quand même. On ne sait pas exactement. En tout cas, ils montrent qu'ils sont encore dans leur mode de pensée charnel. Ils veulent savoir qui va être le premier ministre et qui va... etc., etc. Et Jésus, avec grâce et gentillesse, encore une fois, les reprend en prenant un enfant et en disant qu'ils doivent considérer cet enfant, la manière qu'il a de recevoir Jésus, de sa manière de croire, sa manière de vivre, pour donner l'exemple aux disciples. Est-ce qu'on est prêt à servir des gens qui n'ont aucune importance, qui ne peuvent nous donner aucune chose en retour quand on les aide? Est-ce qu'on est prêt à passer notre vie tout entière à servir Jésus, à servir des gens sans que personne ne s'en aperçoive? On est souvent plein de mauvaises motivations pour le service, le prestige, la reconnaissance, la position, etc., etc. Et Jésus nous dit, mais c'est le plus petit, le moins important, qui est le plus grand dans mon royaume. Et ensuite, les démons disent, on a vu un autre gars qui faisait ce que nous on fait, mais on sait que tu nous as donné juste à nous 12, on est tes lieutenants, et s'il y en a d'autres qui le font, non, hein, ça va pas, quoi. Donc on lui a dit, écoute, tu n'as pas reçu de la part de Jésus le droit de faire ça, donc tu n'as pas eu le badge, tu n'as pas le maillot, tu n'as pas le... etc. Tu n'as pas le droit de le faire, donc arrête. Et les disciples, donc, d'abord ils voulaient savoir qui était le plus grand. Et maintenant, là, ils veulent contrôler les autres, quoi. Ils veulent dire, attends, on fait pas les choses n'importe comment. Vous venez nous voir, et après nous, peut-être, on ira parler à Jésus, quoi, si vous êtes sages, quoi. Et ça, ce moment-là, je pense que c'est bon pour moi, pour nous, de se dire que souvent, dans nos églises, avec un petit « e », on est petit aussi, comme les disciples. On veut contrôler, on veut dire, ah, une autre église fait quelque chose, oh ça va pas, Nous, on est les bons. Jésus est plus grand, fait grâce. Il peut utiliser différentes personnes, il peut utiliser différents mouvements, il peut décider de se servir de nous, de chacun de nous, de nos églises, comme il peut se servir d'autres églises, d'autres mouvements, pour faire grandir son royaume. La bonne chose dans le royaume de Dieu, c'est qu'il est assez grand et assez riche pour que tout le monde ait des bénéfices, tout le monde en profite. Et nous, on n'a pas besoin de se dire les ressources sont limitées, on va récupérer pour nous, quoi. Il y a 10 personnes, les 10, ils doivent rester chez nous. S'il y en a un qui part dans une autre église, oh là là, on a perdu le gars, quoi. On n'est plus que 9. Non, Jésus, lui, il se dit, mais moi, je peux en ramener. Demain, il peut en ramener 200, sans que nous, on ait rien fait. On est tellement petit dans notre compréhension, on est tellement... L'autre là-bas, il est riche, c'est lui qui a tout l'argent. C'est limité, il y a 100 000 euros, il n'y a que ces 100 000 euros. Donc si on veut avoir nous, il faut qu'on aille chercher les 100 000 euros qui sont là-bas et qu'on les partage. Dieu, dans son économie, il dit, le mec là-bas, il a 100 000 euros et moi j'en ai 1 million que je peux lui distribuer. Ne nous laissons pas influencer par la vision du monde. Je ne parle pas pour une vision politique ou etc., etc. Moi, je reste purement sur le spirituel. Ne soyez pas jaloux, ne soyez pas limités, ne jalousez pas les autres croyants, les autres gens dans vos vies, les gens autour de vous qui ont de l'argent. Dieu soit loué que les gens aient de l'argent. Dieu soit loué qu'il y ait des personnes qui soient bénies. Quelles que soient les motivations, quelles que soient les raisons derrière, c'est pas à nous de juger pourquoi quelqu'un a de l'argent. En France, avoir de l'argent, ça veut dire que la personne est malhonnête et mauvaise. Non. Peut-être pour certains, oui. Mais pour d'autres, peut-être qu'il y en a qui ont de l'argent parce qu'ils ont écouté la voix de Dieu et que Dieu les a bénis. Et il en a suffisamment pour bénir tout le monde. Soyons grands à l'image de Jésus, soyons gracieux à l'image de Jésus envers les gens, envers les autres. On est tellement rapide pour voir en l'autre un ennemi. Soyons plus grands que ça. Jésus a appelé ses disciples à être comme ça. Verset 51. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Donc c'est le verset dont je vous parlais la semaine dernière avec son attention qui se porte sur Jérusalem, son attention qui se porte sur son objectif sur terre. Il envoie des personnes devant lui pour préparer sa route. À l'époque, les Samaritains et les Juifs, les Israélites avaient un conflit depuis de longues années, et donc c'est la réaction de ce village de Samaritains est tout à fait normale, était ce qui était attendu, et les disciples sont en mode guerrier politique, on va comme les rois de l'époque, ils t'ont pas honoré, on rase la ville, allez. Ils n'ont pas voulu te recevoir, dommage pour eux, ça va être leur fin. Un petit peu, enfin, à l'époque, c'est ce qui se passait, même pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'étais chez mon oncle et ma tante cet été, et ils nous racontaient comment, dans un petit village en Haute-Savoie, et ils nous racontaient comment les Allemands étaient en train de quitter la France par le tunnel qui va en Italie. Et il y a un des gars du village, dont le nom est gardé secret, mais qui apparemment est toujours en vie, qui du village perché en haut, regardait les Allemands en passage dans la vallée et il s'est dit, tiens, je vais leur tirer dessus. Ce pourquoi les Allemands ont dit, bon ben, on va prendre 5 minutes et on va monter brûler toutes les maisons du village. Donc ils ont tout rasé. C'est la manière de faire dans le monde. Les rois, il y a des exemples, si vous lisez l'histoire, les exemples sans fin de villages rasés parce qu'ils n'ont pas, ils ont gardé des résistants ou parce qu'ils ont osé ne pas être d'accord avec le roi. Et les disciples veulent tuer tout le monde. C'est les frères de tonnerre, Jacques et Jean. C'est presque marrant là, parce qu'ils n'arrivent pas à faire sortir un démon du petit garçon, et là, on a l'impression qu'ils sont confiants qu'ils vont arriver à faire pleuvoir le feu. Mais Jésus, encore une fois, avec grâce, leur dit « Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Il n'est pas venu pour tuer des gens, pour condamner, pour exterminer, pour exécuter des gens, mais pour les sauver. Là aussi, que ce soit notre manière de voir le monde autour de nous. Pas pour condamner, pour juger, pour dire qu'on serait mieux si ces gens-là n'existaient pas ou n'étaient pas présents, mais qu'on ait un amour comme Jésus pour les gens autour de nous. Et verset 57 à 62, on a encore trois petits exemples des indications sur comment il faut suivre Jésus. On voit le premier homme, Jésus lui dit qu'il y a une, si on veut suivre Jésus, il y a une incertitude et on doit avoir une certaine capacité à ne pas s'attacher aux choses du monde, à vivre avec une certaine absence de confort, que le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. Il n'est pas en train de dire qu'on n'a pas le droit d'avoir une maison avec un lit, mais il est en train de nous dire qu'on doit être flexible, qu'on doit être prêt à laisser les choses matérielles de côté. Le premier lui dit « Je te suivrai ». Le deuxième, Jésus lui dit « Suis-moi ». Verset 59. Et celui-là a dit « Bon, je vais d'abord ensevelir mon Père ». Ce qu'on comprend de ce que disent les commentateurs par rapport aux coutumes juives et par rapport à l'époque, c'est pas que son père était mort et qu'il fallait juste qu'il aille l'enterrer, mais c'est l'idée que son père était vieux et qu'il disait en fait, je vais attendre que mon père décède, qu'il finisse, qu'il vieillisse et qu'il y passe, et que après je suis prêt à suivre et à venir faire ce que tu veux. Jésus n'est pas en train de dire on n'a pas le droit d'honorer nos parents ou c'est un des 10 commandements, l'idée qu'on doit honorer notre père et notre mère, mais c'est cette idée qu'il y a une urgence, qu'il y a une priorité pour le royaume de Dieu quand même, et surtout qu'il y a un bon moment pour les choses. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir le sentiment que Dieu vous poussait à faire quelque chose ? Et vous vous êtes dit, ouais, peut-être plus tard ou demain, là, je vais attendre un petit peu, quoi. On aime bien, moi, je procrastine beaucoup dans la vie de tous les jours. Je me dis, ouais, le sermon, ouais, j'ai jusqu'à samedi soir, dimanche très tôt dans la matinée pour le finir, quoi. Je peux attendre un petit peu, quoi. Je vois quelqu'un qui a besoin d'aide, je me dis, ouais, Quelqu'un me vient à l'esprit, je me dis, je devrais l'appeler ou l'encourager. Ouais, c'est une bonne idée, je le ferai. Jésus veut qu'on soit sensible aussi au fait que quand il nous dit de faire quelque chose, il veut qu'on le fasse. Faisons les choses que Jésus nous demande quand il nous les demande. Et puis le dernier, il dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Là, il utilise un exemple avec la manière qu'ils avaient de travailler les champs avec les bœufs et l'idée que s'ils regardaient vers l'arrière pour voir si le sillon était bien tracé, ça les empêchait de tracer des sillons bien droits dans les champs. Et là, Jésus veut qu'on ne soit pas trop tenu par les traditions, par la famille, par peut-être les attentes du monde, par notre passé, et qu'on soit prêt à laisser les choses à passer, à nous décharger de toutes ces choses qui nous pèsent. Il nous dit, venez à moi, je prendrai vos fardeaux. Dans Romains, il est dit, enlevez tous ces péchés, toutes ces choses qui vous enveloppent, qui vous empêchent de courir la course que Jésus a pour vous. Paul disait, je fais une chose, Je ne regarde pas en arrière, je regarde vers l'avant, vers ce que Jésus a dans la suite. Et ça, c'est quelque chose, des fois, on a du mal, parce qu'on aime bien, on s'identifie, on tire notre identité de notre passé, de notre famille, de nos expériences, de nos choses. C'est pas tout mauvais, mais on doit être prêt à suivre Jésus là où il nous mène. Et aussi, simplement, Jésus, là, c'est un message d'espoir. Il veut qu'on soit libre en lui de pouvoir avancer, de pouvoir passer à la suite dans nos vies. Et toutes ces choses, je pense, font partie des choses qui nous permettent de mieux refléter cette gloire dont on parlait tout à l'heure, d'être comme Jésus le veut. Essayons d'obéir à ces paroles de Jésus cette semaine, dans la suite de nos vies. Essayons de refléter la gloire de Jésus autour de nous. Prions. Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Seigneur, merci parce que tu veux que nous venions à toi tous les jours avec ces disciplines, Seigneur, dans la prière, dans la parole, dans la communion fraternelle, Seigneur, pour que par ton esprit, tu puisses produire ce fruit, que tu puisses produire ces choses en nous, que tu puisses nous faire obéir. Jésus, aide-nous à être des chrétiens, des suiveurs de Jésus qui sont définis par les choses que nous faisons par obéissance pour toi, Seigneur. Pas des gens qui sont définis par les péchés que nous ne commettons pas, Seigneur, mais par les actions, les bonnes choses, l'obéissance que nous avons pour toi, Seigneur. Aide-nous à partir de cet endroit ce matin en ayant une ferme résolution de prendre quelque chose de ce matin, de prendre quelque chose de ce texte et de l'appliquer cette semaine dans nos vies, Seigneur. Aide-nous à choisir quelque chose, Seigneur, à faire cette semaine pour toi, pour refléter ta gloire. Seigneur, merci parce que tu nous as sauvés. Sois glorifié ce matin, en ton nom nous prions. Amen.